de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos d'Indonésie et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président Joko Widodo se rend compte que l'Indonésie est prête à faire face à la concurrence mondiale. Le ministre des Affaires étrangères des États-Unis félicite le 74e anniversaire de la République d'Indonésie. Le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales a déclaré que l'Indonésie se dirigerait vers le B30. L'Indonésie et Singapour continuent d'améliorer leur partenariat. Et enfin, l'Inde et l'Indonésie renforcent la coopération dans les domaines du commerce, de la politique, de la science et de la technologie. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a prononcé vendredi un discours d'État devant le Parlement indonésien à Jakarta à l'occasion du 74e anniversaire de la fête de l'indépendance. Dans son discours, le président Joko Widodo a indiqué qu'à 74 ans, l'Indonésie était prête à faire face à l'ère de l'ouverture mondiale. Cependant, selon lui, cette préparation est accompagnée de vigilance à la fois contre les idéologies étrangères qui menacent l'idéologie de l'État et contre les cultures étrangères qui ne sont pas conformes à la sagesse locale. En outre, le président Joko Widodo a également déclaré que l'Indonésie était prête à faire face à la concurrence mondiale qui sera confrontée à la créativité, à l'innovation et à la rapidité de la nation indonésienne.
Indonesia tidak takut terhadap persaingan, tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi.
Indonesia n'a pas peur de concurrence. Nous sommes confrontés à la concurrence avec la créativité, l'innovation et le rythme que nous avons. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix, nous devons changer. Les anciennes méthodes qui ne sont pas compétitives ne peuvent pas être poursuivies. De nouvelles stratégies doivent être créées, de nouvelles façons doivent être faites. Nous ne disons pas simplement que nous sommes meilleurs qu'avant, mais nous devons être meilleurs que les autres. Encore une fois, il ne suffit pas d'être meilleurs qu'avant, mais nous devons être meilleurs que les autres. En outre, dans son deuxième discours devant la séance du Parlement ou DPR, l'Assemblée consultative du peuple MPR et la session du Parlement régional DPD, le président Joko Widodo, qui portait le costume traditionnel sasak de la province de Nusa Tenggara West, a souligné l'importance d'encourager les investissements en Indonésie. Au milieu de la concurrence mondiale où le monde entier se dispute les influences du marché et des investissements, le président Joko Widodo a également souligné l'importance de l'investissement pour créer des emplois qui sont bénéfiques pour le pays.
Dalam kompetisi global yang ketat, berebut pengaruh, berebut pasar, berebut investasi.
Dans une compétition mondiale serrée, se disputant l'influence du marché en quête d'investissement, Nous devons être plus rapides et meilleurs que les autres pays et les pays voisins. Les investissements doivent créer de nouveaux emplois, doivent profiter à notre pays. Pour parvenir à tout cela, le président Joko Widodo a encouragé toutes les parties à agir rapidement, non seulement en intensifiant, mais en sautant pour saisir toutes les opportunités disponibles. Le représentant du gouvernement des États-Unis d'Amérique, le ministre des Affaires étrangères Michael R. Pompeo, a adressé ses sincères félicitations au peuple indonésien qui a célébré le 74e jour de l'indépendance le 17 août 2019. Pompeo a déclaré vendredi dans une déclaration écrite de l'ambassade américaine à Jakarta que les États-Unis et l'Indonésie avaient également célébré 70 ans des relations diplomatiques et espéré que les partenariats stratégiques se poursuivraient dans l'intérêt des peuples indonésiens et américains et soutenaient la paix et la prospérité dans la région et dans le monde. Les États-Unis ont également apprécié le rôle joué par l'Indonésie en tant que leader démocratique dans la région Indo-Pacifique et en tant que porte-parole important pour des priorités mondiales. Les États-Unis sont fiers des relations historiques entre les deux pays et ont exprimé leurs meilleurs vœux à la population indonésienne pour cette occasion importante. Le vice-ministre de l'énergie et des ressources minérales, Archanda Tahar, a déclaré que l'orientation du président Joko Widodo était claire, l'Indonésie passerait au biodiesel B30. Archanda Tahar a déclaré vendredi que dans son discours devant la session conjointe du Parlement, le président a déclaré que l'Indonésie était en mesure de produire du biodiesel à 100% à partir de type végétaux ou B100. Selon le président, l'Indonésie a commencé avec le programme B20 et entrera à B30 en mélange de carburant diesel avec 30% de biodiesel. L'Indonésie peut être plus que cela en étant capable de produire de B100. Concernant l'industrie de l'innovation énergétique, le président Jokowi a encouragé l'avoir l'industrie du secteur des carburants et des minéraux miniers. Singapour et l'Indonésie entretiennent des relations étroites depuis le début du 14e siècle, lorsque Singapour s'appelait encore Temasek. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Singapour en Indonésie, Anil Kumar Nayar, lors de la 54e commémoration de la Journée nationale de Singapour à Jakarta mercredi. Anil Kumar a ajouté qu'actuellement, les deux pays ont progressé en tant que voisins et partenaires à tous les niveaux entre les gouvernements, le monde des affaires et ses citoyens. Nous avons une relation forte et croissante en matière de commerce et d'investissement. Nos projets communs, y compris ceux du parc industriel de Kendal au centre de Java et du parc numérique de Nongsa à Batam, vont bien et contribuent à créer de nouveaux emplois pour les Indonésiens et les Singapouriens. L'ambassadeur Anil Kumar Nayar a ajouté que Singapour et l'Indonésie ont également collaboré dans les domaines de la formation professionnelle, de la mise à niveau des compétences et de l'industrie 4.0 pour préparer les ressources humaines des deux pays à faire face à la future économie. En tant que membre de l'ASEAN, Singapour et l'Indonésie ont également un intérêt commun à assurer la paix, la prospérité et la stabilité dans la région. L'ambassadeur Nayar a déclaré que Singapour serait le prochain hôte de la retraite des dirigeants Singapour-Indonésie entre le Premier ministre Lee Hsien Loong et le président Jokowi en octobre. L'ambassadeur par intérim de l'Inde en Indonésie, Sri Prakash Gupta, a déclaré que cette année était une année spéciale pour l'Inde, car en plus de célébrer ses 73 ans d'indépendance, l'Inde célèbre également ses 70 ans de relations diplomatiques avec l'Indonésie. Aux médias, après avoir dirigé la cérémonie du drapeau du 73e jour de l'indépendance indienne à l'ambassade de l'Inde à Jakarta jeudi, l'ambassadeur Gupta a déclaré que les relations entre l'Inde et l'Indonésie visaient cette année à améliorer la connectivité entre les peuples, approfondir des échanges politiques entre les dirigeants des deux pays et intensifier des relations dans les domaines de la science et de la technologie.
So there are four or five areas we are focusing on.
Il y a donc quelques domaines sur lesquels nous nous concentrons. L'un des domaines est à intensifier le commerce bilatéral. Deuxièmement, améliorer la connectivité entre les peuples. Nous organisons un très grand événement touristique à Pacific Place le 30. Nous cherchons également à approfondir les échanges politiques entre les plus hauts dirigeants. Nous s'efforçons également à approfondir la coopération dans les domaines de l'espace, de la science et de la technologie. Nous sommes partenaires avec la PAN ou l'Institut Spatial National. C'est donc aussi des domaines importants sur lesquels nous approfondissons pour notre 70e anniversaire. À cette occasion, Sri Prakash Gupta a également exprimé son souhait au peuple indonésien à l'occasion de la célébration du 74e jour de l'indépendance et a espéré que la paix et la sécurité dans la région seraient rétablies lors de la célébration de la fête de l'indépendance le 17 août. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers amis, nous continuons notre émission avec les enfants de l'Indonésie. Les premiers enfants sont venus de Mataram, Nusa Tenggara Ouest. Le succès du programme Zéro Déchet, le gouverneur a lancé l'école Lisan. Le gouverneur de Nusa Tenggara Ouest, Zulkifli Mansyah, et le maire de Mataram, Ayer Abdou, ont organisé une activité de nettoyage et de lancement du programme de l'école de l'environnement de déchets zéro, situé dans le village de Dasan Agung, le district de Selaparang, vendredi le 16 août 2019. Le gouverneur a déclaré que la chose la plus importante pour réussir le programme de Nusa Tenggara Ouest Zéro Déchet est de changer le mindset de la communauté. Il croit que si le mindset de la population peut être changé, la province de Nusa Tenggara Ouest sans déchets pourra être réalisée en 2023. Zulkifli Mansyah a également expliqué l'importance des banques de déchets existées dans toutes les régions de Nusa Tenggara Ouest qui pourraient donner le bien-être à la population de cette région. Outre la banque de déchets, le gouverneur espère que le fleuve existant deviendra un lieu ayant une valeur économique pour la communauté environnante. Par conséquent, il a l'intention d'envoyer 30 activistes à Singapour liés au fleuve. On espère que les activistes pourront apprendre à organiser et à gérer le fleuve à Mataram. Ensuite, les enfants de Sumeneb, Java Oriental. La ministre de la Santé, Nila Mulluk, et le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, ont inauguré l'hôpital flottant à Sumeneb. Ils ont opéré un navire hôpital flottant dans la résidence de Sumeneb, Java Oriental. L'opération de ce navire est marquée par la signature d'un mémorandum d'accord entre trois agences, à savoir le ministère des Transports, le ministère de la Santé et le gouvernement de la province de Java Est. Le ministre de la Santé a expliqué que le service de santé effectué serait à la fois promotionnel, préventif, curatif et de réadaptation. Le gouverneur de Java Est, Khofifa Indah Parawansa, a remercié le ministre des Transports et la ministre de la Santé d'avoir fourni des navires hôpitaux flottants à Sumeneb destinés à la santé publique sur les îles dans cette région. Les derniers enfants sont d'Ambon, les Moluques. La ville d'Ambon a reçu diverses prestations à l'occasion du 74e anniversaire de la République d'Indonésie. Le maire d'Ambon, Richard Luhanepesi, a présidé samedi le 17 août 2019 une cérémonie commémorant le 74e anniversaire de la République d'Indonésie devant le tribunal de la mairie d'Ambon, accompagné du maire adjoint d'Ambon, Sharif Hadler, et du secrétaire de la ville d'Ambon, Ajie Latuheru, à laquelle ont participé les responsables de l'unité de travail régional et les fonctionnaires de la ville d'Ambon. Dans son allocution, le maire d'Ambon, Richard Luhenepasi, a déclaré qu'à l'âge de 74 ans, la ville d'Ambon a reçu diverses prestations, entre autres, être classée dans le top 45 des innovations de services publics en 2009 par le ministère de l'État pour le renforcement des appareils et la réforme bureaucratique. Le maire d'Ambon a également invité les fonctionnaires et les habitants à vérifier à la fois la quantité et les ressources accordées par l'État à la population indonésienne, de sorte qu'avec la capacité dont ils disposent, les citoyens fassent de leur mieux pour la nation et pour l'État. C'est Ritor, c'était les enfants de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 17 août. Le 17 août 1945, la proclamation de l'indépendance indonésienne. L'attaque à la bombe atomique américaine sur les villes Hiroshima le 6 août 1945 et Nagasaki le 9 août 1945 est devenue le point de défaite du Japon contre les Alliés. L'Indonésie a profité de ce moment pour proclamer son indépendance. Le 12 août 1945, le Japon, par l'intermédiaire du maréchal Terauchi, a déclaré à Sukarno, président du comité préparatoire de l'indépendance de l'Indonésie, que le gouvernement japonais accorderait bientôt l'indépendance à l'Indonésie le 24 août. Cependant, les jeunes combattants l'ont refusé. Le matin du 16 août, ils ont amené Sukarno et Hatta à Rengas Dengklok, qui est devenu connu sous le nom de l'incident de Rengas Dengklok. Le but est que Sukarno et Hatta n'ont pas été influencés par le Japon. Ce n'est que le 17 août 1945, à 10 heures, temps d'Indonésie occidentale, le texte de la proclamation a été lu accompagné de la levée du drapeau rouge et blanc. Thank you. Le 17 août 1960, la République du Gabon est indépendante de la France. La République du Gabon est un pays situé en Afrique occidentale. Le Gabon est bordé par la Guinée équatoriale et le Cameroun, au nord de la République du Congo, à l'ouest et au sud. Au XVe siècle, le Gabon fut colonisé par les Portugais, puis au milieu du XIXe siècle, la France entra au Gabon et devint officiellement une colonie française. En 1910, le Gabon est devenu l'une des quatre régions africaines équatoriales de la France, une fédération qui a duré jusqu'en 1959. Au congrès de Berlin, la France a renoncé au pouvoir et le Gabon a obtenu son indépendance le 17 août 1960 avec Léon Mba comme premier président. Le 17 août 1999, un tremblement de terre dévastateur a frappé la Turquie. Le 17 août 1999, deux séismes d'une magnitude de 6,7 et 7,4 sur l'échelle de Richter ont frappé la région Izmit au nord-ouest et à l'ouest de la Turquie. La catastrophe naturelle a tué 18 000 personnes et 44 000 ont été blessées. L'ampleur du tremblement de terre a provoqué un déplacement de la terre le long de l'Anatolie du Nord jusqu'à 3 mètres. La Turquie, en particulier la région anatolienne, a subi des dizaines de tremblements de terre de même ampleur depuis 1939, mais le tremblement de terre de 1999 a été celui qui a le plus secoué la Turquie. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée La plus meilleure Indonésie, chantée par Écoutez. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en titre, le gouvernement prépare 1 162,83 000 milliards rupiah à produire d'excellentes ressources humaines. Le gouvernement indonésien a préparé un budget de 1 162,83 000 milliards rupiah à produire des ressources humaines supérieures. Le ministre de la Planification du Développement National, responsable de l'Agence Nationale de Planification BAPENAS, Bambang Brojonegoro, a déclaré jeudi dans une déclaration écrite reçue à Jakarta que produire des ressources humaines supérieures devait constituer une avancée décisive et une innovation. Pour cette raison, le gouvernement a préparé 4 programmes principaux pour atteindre ses objectifs dans le plan national de développement à moyen terme 2020-2024. Le premier grand projet est accélérer la réduction du nombre de décès maternels et de retards de croissance. Deuxièmement, le développement de l'enseignement et de la formation professionnelle pour l'industrie 4.0. Troisièmement, le développement du technoparc scientifique en optimisant Triple Helix dans 4 grandes universités. Quatrièmement, la numérisation et l'intégration de l'assistance sociale. Bambang Brojonegoro a ajouté l'allocation de fonds pour ces 4 projets principaux avec des détails de 26 000 milliards rupiah pour accélérer la réduction du nombre de décès maternels et de retards de croissance. Les ministères et les institutions qui organisent les premiers grands projets sont le ministère de la Santé, le Conseil national de coordination de la planification familiale, le ministère de l'Éducation et de la Culture, le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Religion et le ministère de l'Agriculture. Alors que 330,1 000 milliards rupiah sont inscrits au budget pour le développement de l'enseignement et de la formation professionnelle pour l'industrie 4.0, le programme sera mis en œuvre par le ministère chargé de la coordination des affaires économiques, le ministère chargé de la promotion du développement humain et de la culture, le ministère de l'éducation et de la culture, le ministère de la technologie et de l'enseignement supérieur, le ministère de la main-d'œuvre, le ministère de l'industrie, le ministère de l'agriculture et des ressources minérales et 11 ministres et autres institutions. En outre, un fonds de 2,8 000 milliards rupiah sera utilisé pour développer la technoparc scientifique. Le troisième grand projet sera réalisé par le ministère de la Technologie et de la Recherche et Enseignement supérieur, Université d'Indonésie, l'Institut de la Technologie Bandung, Université Gadjah Mada et l'Institut Agricole Bogor. Le plus grand fonds d'un montant de 803,93 000 milliards rupiah est pour la numérisation et l'intégration de l'assistance sociale. Le projet principal sera mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Éducation et de la Culture, le ministère des Religions, le ministère de la Recherche et de la Technologie et de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales. Selon Bambang Brojonegoro, l'ère d'industrie 4.0 ne peut être réalisée de la manière habituelle. il doit y avoir une façon novatrice d'apprendre et de penser de manière novatrice. Cher ami, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Show it to me.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée « Montrer ton amour » chantée par Ran Fit Sheila. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel introduisant la compétition d'Areka, une course traditionnelle qui anime toujours la célébration du 17 août. Le 17 août de cette année, le peuple indonésien a célébré le 74e jour de l'indépendance. Après la cérémonie du drapeau commémorant le jour de l'indépendance, généralement dans les quartiers de Rukun Tetangga, soit pilier de voisins, Rukun Warga, soit pilier de citoyens, village, sous-district et jusqu'au niveau provincial, il y a toujours une compétition d'Areka, car beaucoup de gens pensent qu'elle est incomplète s'il n'y a pas de compétition d'Areka, bien qu'il existe de nombreuses autres compétitions. Pour la compétition d'Areka, on a besoin d'un arbre ou d'un mât droit et haut maculé de lubrifiant. Au sommet de la noix d'Arek, divers prix attrayants ont été préparés, tels que radio, ventilateur, bicyclette et bien d'autres. Ensuite, les participants ont concouru pour gagner les prix en escaladant des troncs d'arbres. Les participants à l'escalade d'Areka tombent souvent et continuent de répéter l'ascension jusqu'à ce qu'ils aient gagné le prix ci-dessus. La créativité et la coopération des participants pour réussir à gravir des troncs glissants et à remporter les prix sont devenus une attraction intéressante pour le public. La compétition d'Areka, qui est devenue la course la plus enthousiaste, existe apparemment depuis l'ère coloniale néerlandaise. Autrefois, les Néerlandais organisaient des événements importants tels que des mariages, des promotions ou des anniversaires. À cette époque, les prix étaient généralement composés d'ingrédients alimentaires tels que du fromage, du sucre et des vêtements. Les règles du concours d'Areka n'ont jamais changé, c'est-à-dire que les participants se composent de plusieurs groupes et qu'un groupe se compose de 4 ou 5 personnes. Chaque groupe a eu l'occasion de monter à tour de rôle dans l'Areka palmier pour ramasser les cadeaux qui avaient été suspendus aux pousses ou piliers d'Areka. Les participants qui sont capables de grimper jusqu'au bout et de prendre le prix sont déclarés gagnants. Le concours de l'escalade de l'Arec en tant que jeu traditionnel doit en effet être préservé car elle renferme la philosophie nécessaire pour atteindre l'objectif qui requiert persévérance, travail acharné et coopération, à l'instar de nos prédécesseurs qui ont réalisé l'indépendance de l'Indonésie. Chers amis, c'était le magazine culturel.
Dirimu buatku selalu penasaran, terkadang terkadang buatku tersipu. Malu, manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu harus bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki, teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-teki, teka-tekimu. Sesungguhnya malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki, teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-tekimu. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki, teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-teki, teka-tekimu.
Terkadang ku merasa hampir tak mampu menghadapi kamu dan semua tanda tanyamu. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan
teka-teki, teka-teki.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Raïssa intitulée Puzzle. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur.
Chers amis, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur en formant sur Halimun Youth Camp 2019 un effort pour présenter Bogor aux Jeux du Monde. Le gouvernement de la Régence Bogor Java Occidental organisera le Halimun Youth Camp 2019 afin de commémorer le jour de l'indépendance de la République d'Indonésie en 2019 et d'introduire aux Jeux du monde entier des destinations touristiques à Bogor. Alfisa Triatmoko, le comité d'organisation du Halimun Youth Camp 2019, a expliqué lundi que l'activité de l'ascension du sommet du mont Halimun avait eu lieu dans le district Nanggung, une zone de conservation naturelle du parc national du mont Halimun Salak, les 24 et 25 août 2019. Cette activité visait à promouvoir le secteur touristique à la base des villages en Régence Bogor en impliquant des participants étrangers. Selon Alfisa Triatmoko, en plus de promouvoir le tourisme en région Bogor, l'événement vise également à promouvoir la protection de la jeunesse pour la nature et l'environnement. Les participants du camp de jeunes Halimun seront également gâtés par l'incroyable panorama naturel de Halimun. Le parc national du Mont Halimun Salak abrite 23 espèces de mammifères, 500 espèces de plantes et au moins 200 espèces d'oiseaux. Comme son nom l'indique, cette zone comprend le Mont Halimun, près de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et le Mont Salak, environ 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Parmi les destinations touristiques sur le mont Halimun Bogor figure la plantation de thé Nirmala, le tourisme de cascade avec 34 points différents, des rizières en terrasse, le bureau du premier régent, Serentown qui est la culture annuelle de la communauté locale, etc. Les inscriptions pour Halimun Youth Camp 2019 sont ouvertes du 6 au 19 août 2019. Bien que l'inscription soit gratuite, l'âge des participants est limité à 16 à 30 ans. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Cahaya temani langkah dan sejak dulu kau ada di sini, pasti tak akan ada cinta yang lain. Tak kurasa sebelumnya, tak kurasa sebelumnya, tak kurasa sebelumnya, tak kurasa sebelumnya.
Salary Talk setelah dengan sang song ang titulé Un million d'amour chanté par Yovi et Nuno. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33-25 kHz et sur le site web www.voice.id. Salary Talk, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonsoir tout le monde. Cette édition, nous vous présentons une chanson de Kroncong dont le thème est l'héroïsme, intitulée Pahlawan Merdeka ou en français L'héros de l'indépendance. Cette chanson a été créée par Panji Kamal et est l'une des chansons nationales obligatoires. Comme le titre, les paroles de cette chanson parlent de la lutte des héros de la nation, à savoir la défense de l'indépendance indonésienne. Ils sacrifient leur corps et leur âme pour la nation et l'État. Cette chanson contient également des éloges, des remerciements et une grande appréciation pour les héros. Bon, chers auditeurs, voici Hairizal Haidir chantant la chanson intitulée « Pahlawan Merdeka ».
Bye.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!